Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Katana Zero, de Days Gone, de Final Fantasy X et X-2, but on Switch, et de Totally Accurate Battlegrounds pour finir. Programme chargé et équipe... on bat des records. Avec trois de mes chroniqueurs favoris et puis une petite nouvelle, ça va être formidable. Corentin Benoît Gonin, des Croissants. Bonjour Corentin.
Salut Erwan.
Reviens derrière ton micro, tu étais parti loin.
Non, c'est faux, j'étais au cinéma. Oui, bon.
Camille Suard, bonjour.
Hello.
Camille. Et Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et Elodie Drouard de franceinfo.fr. Bonjour Elodie,
bonjour.
Bienvenue.
Bonjour Erwan.
Un vrai plaisir de te recevoir ici.
C'est gentil, merci.
Tu t'occupes de tout ce qui est pop culture, séries, mangas, bandes dessinées et jeux vidéo pour franceinfo.fr.
Exactement.
C'est cool de t'avoir ici. On commence avec toi, Patrick, avec Earthworm Jim 3.
Eh oui, un nouvel Earthworm Jim, c'est pas rien, l'annonce est tombée.
C'est pas rien.
Alors en fait, ça a surtout mis la lumière sur une bécane que j'avais même pas calculée. Pourtant, j'ai quand même, un petit penchant pour le rétro.
T'es un peu l'expert français.
Elle s'appelle l'Intellivision Amico. Une bécane toute blanche, prévue pour... octobre 2020, donc c'est pas tout de suite. Elle est très laide, hein. On dirait, vous savez, les machines qu'on utilise pour faire des bains de pied, etc. Enfin, elle est très moche, cette console.
Par rapport à Thermomix, c'est comment?
On n'est pas très loin, mais d'accord. Plus tu la mets au sol et bon, voilà. En fait, console, donc sortie, prévue en 2020, plutôt orientée très grand public, a priori. C'est le être en phase avec le.
On sent une hype assez moyenne quand même.
En fait, j'avais pas calculé cette machine. Ouais. C'est vrai qu'il y a des news, je l'ai vu passer sans faire attention. Donc l'idée derrière cette bécane, c'est évidemment de rebondir sur la marque Intellivision. On rappelle, une console de 79 américaine qui avait eu son succès à l'époque.
Oui, parce qu'en fait, elle se définissait comme étant beaucoup plus réaliste que sa concurrente, l'Atari 2600.
Là, je crois que c'est la première console 16 bits, il y a un truc comme ça. Puis elle a eu son petit succès, je crois que 5 millions d'exemplaires, quelque chose comme ça. Donc à vérifier.
Mais bon, machine aussi.
C'est une marque rétro qui a son aura, mais que moi j'avais complètement zappé. Et là, évidemment, grand coup de lumière dessus. Puisqu'on a eu l'annonce d'un Earthworm Jim qui sortirait a priori en exclusivité sur cette machine, donc c'est pas pour tout de suite, hein, parce que la machine c'est pas avant la rentrée 2020, donc c'est pas avant un peu plus d'un an. Alors exclusif parce que a priori cette console va uniquement afficher des jeux exclusifs, hein, c'est le message qui a entouré
tellement d'indices pour dire que ça va pas marcher.
Ça fait un petit peu peur. On rappelle donc une machine qui est annoncée sous les $200 et puis qui va surtout faire tourner des jeux plutôt petit format. Hein. On parle de jeux entre 2 et 8 dollars a priori en téléchargement. Donc audience très famille, hein, d'après ce qu'on a vu. J'ai vu des... Et rétro, vu la marque. On a du Kung Fu Master, du Toe Jam and Earl, du Spelunker. Donc,
est-ce que ce sera rétro-compatible Ouya ?
Je pense pas, c'est mais on est, j'ai l'impression qu'on n'est pas loin de cette ambiance-là, pour tout dire. Non, bah, évidemment, ça fait envie parce que Form Gym, c'est une marque mythique. On est aux 25 ans aujourd'hui de la sortie du premier Form Gym. On rappelle, c'était quand même.
Mais alors, l'année prochaine, ça fera 26, ça marche
pas. Ils ont un peu loupé le coche. Mais là, en tout cas, l'annonce, bah, du coup, l'annonce, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait, parce qu'on est quand même un an et demi avant la sortie, ouais. Hein, c'est quand même un peu loin tout ça. Donc on est sur les 25 ans de la sortie de ce jeu quand même mythique, un jeu de plateforme très cartoon. Derrière ce jeu, il y avait David Perry, le fameux créateur, enfin c'est une légende du jeu vidéo, qui avait bossé sur le Aladdin Mega Drive, le meilleur des deux Aladdin pour moi. Mais bon,
on fera une émission spéciale pour déterminer.
On va pas se lancer là-dessus. Il y a deux paroisses qui se battent dessus depuis très longtemps. Et puis on a aussi Doug Ten Napel qui était le dessinateur qui a créé From Jim, qui lui aussi est dans ce qui travaille sur ce nouveau projet. Et c'est Tommy Tallarico qui a annoncé cette sortie d'avoir From Jim. Alors tout ça n'est pas évidemment par hasard puisque Perry et lui-même sont partie prenante de cette nouvelle Coleco nouvelle Intellivision. Donc Coleco, c'était le concurrent d'en face.
Tommy Tallarico qui était le compositeur sur Earthworm Jim.
C'est un musicos mythique du jeu vidéo.
Il est aussi derrière les Video Games Live, je crois.
Exactement, c'est lui qui était à l'origine, je crois, qu'il est dirigeait.
C'est le patron d'Intellivision. Donc en fait, il a toutes les cartes en main, le mec.
C'est clair. Et puis il a Perry avec lui. Il y a donc le dessinateur de Earthworm Jim. Bon, après, voilà, le problème, c'est la console, quoi. On en est loin. C'est une annonce un an et demi avant. Elle est moche. En plus, ils ont repris, le concept de l'Intellivision, c'était ça. C'est-à-dire une machine un peu tout en un. Tu sais, c'était un bloc avec les manettes qui s'incrustaient dedans. Et puis surtout, c'était pas une croix directionnelle. C'était une sorte de pavé, pas très précis, moi, pour l'avoir un petit peu, touché à l'époque.
C'était un pavé tactile?
Surtout très hasardant.
Pavé numéroté.
Oui. Alors, il y avait ça, puis t'avais une sorte de...
40 téléphones, non?
Ouais, c'était vraiment pas bon. Puis là, ils reprennent un peu le concept avec des manettes qui s'enclenchent dedans, une appli qu'on téléchargera pour jouer sur des mobiles. Bon, tout ça est un petit peu peur parce qu'on est quand même sur une marque mythique, Form Gym. Donc,
les mecs, ils vont sortir une console Intellivision qui fait peur à Patrick Helio. Je pense qu'ils devraient revoir leur modèle économique.
Priori, alors, juste pour finir, il y a une vidéo donc, qui va sortir, je crois, le 4 mai où ils devraient en montrer un petit peu plus. Hein. Pour l'instant, on n'a pas eu plus d'infos. Le 4 mai, donc vous qui écoutez, vous l'aurez normalement entre les mains, cette vidéo, si tout va bien. Voilà.
Corentin, des nouvelles de Rocket League.
Ouais, donc après, Epic Games rachète Borderlands 3, Epic Games va bientôt racheter Activision, parce que vu le rythme où on est parti, je crois qu'on y est bientôt. Epic Games, en attendant, rachète Psyonix. Donc Psyonix, c'est le studio qui est derrière le gros succès Rocket League, hein, qui est un des plus gros succès en termes de jeux multijoueurs, que ça soit et sur console et sur PC. C'est vrai que c'est un jeu dont on entend toujours parler, qui est régulièrement dans les tops des jeux les plus joués et les plus regardés sur Twitch et tout ça. A priori, va finir sur l'Epic Store d'ici la fin de l'année. Alors, il reste sur Steam en attendant. Yep. Il y a eu des premières conclusions, notamment de la part de la presse, qui disaient que le jeu allait être retiré de Steam. A priori, Epic Games a clarifié les choses et a dit « c'est pas dans les cartons pour l'instant ». Ils n'ont pas dit qu'ils n'allaient pas le faire non plus. On ne sait pas trop du coup quels vont être les plans Epic Games concernant Rocket League sur Steam. En tout cas, ils ont dit qu'ils continueraient évidemment de sortir la DLC et sur Steam et sur l'Epic Store et qu'ils continueraient à mettre le jeu à jour et qu'il n'y aura pas de problème de compatibilité au niveau du multijoueur entre si tu as le jeu sur Epic Store ou si tu as le jeu sur Steam. Voilà, donc c'est pas rien. Il y a beaucoup de gens qui ont râlé mine de rien sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, ils voient de plus en plus ce marché du jeu vidéo qui était un peu unique et unifié avec Steam en seul, on va dire, juggernaut de la vente de gens dématérialisés, commencer mine de rien à se faire mais agressée sur ce marché-là. Moi, je trouve que c'est pas grave. Enfin, on va dire les choses, c'est pas très très grave qu'il y a un petit peu de concurrence qui vienne se mettre un petit peu là-dedans, parce que Steam n'a pas fait que des choses bien non plus pendant.
J'ai beaucoup aimé le trollage du boss d'Epic Games. Je sais pas si vous l'avez vu sur Twitter, en fait, si Steam se met à rémunérer les développeurs à 88%, on arrête les exclus.
C'est malin.
Voilà, c'était un vrai troll, hein. c'était bien.
Donc, je dirais que pour tous ceux qui ont peur de voir cette concurrence se développer, je ne sais pas trop de quoi y avoir peur, à part installer un deuxième client sur son ordinateur. Je ne vois pas trop qu'est-ce que le client aille perdre dans cette histoire. Et les développeurs aussi, d'ailleurs, parce qu'en effet, on parlait des parts données aux uns aux autres. Bon, on verra comment ça se développe, mais en vrai,
on va survivre. Semaines,
oui, absolument.
C'est pour,
là, c'est World of Goo en ce moment.
Ouais, j'ai vu ça, mais ils alimentent bien.
Et la semaine prochaine, dans 15 jours, c'est Stories Untold, qui est un excellent jeu narratif. C'est vraiment chouette. Moi, j'avais beaucoup aimé, c'est chez Devolver. On a aussi Nintendo qui a annoncé tous ses résultats. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais surtout, moi, ce qui m'a interpellé, c'est les 10 millions de comptes, un peu moins, 10 millions de comptes Nintendo Switch Online qui ont été annoncés par Nintendo. C'est beaucoup, parce que quand même, il y a 34 millions de consoles qui ont été vendues. Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs comptes sur une console, que les comptes familiaux sont comptés, et que mais pas les free trials, par contre. Ouais. Donc, voilà. Mais ça reste beaucoup, je trouve, pour un service qui, alors certes, file des jeunesses, c'est vrai.
Tetris 99.
Qui file Tetris 99, c'est vrai. Qui fait le cloud, bon, ça, il pourrait le donner naturellement. Mais surtout, qui ne donne pas de serveur dédié à des jeux importants comme Splatoon 2, comme Smash Bros, où c'est encore une galère de jouer en ligne, où il y a du lag, où il y a vraiment des moments où tu comprends pas ça.
En même temps, ça marche, donc.
Non, je suis désolé, dans Splatoon 2, il y a vraiment des trades, je suis pas d'accord. Tu vois, c'est.
Ça se vend. Enfin,
non, mais ça se vend, mais c'est un manque de respect par rapport à. C'est un manque de respect par rapport au client. Pour un Mario Kart, c'est pas un souci, parce que c'est pas grave s'il y a une remise au clair tu peux continuer de jouer le jeu en local pendant un petit moment le temps qu'il calcule que oui tu t'es pris une carapace rouge dans un
la première fois que tu nous en parles
dans TPS comme Splatoon c'est pas possible, il faut un petit peu plus de réactivité et dans Smash Bros je vous raconte même pas, c'est vraiment pas, moi j'ai vraiment du mal à jouer en ligne à Smash Bros, c'est pas agréable, et si vous jouez à 4 c'est c'est la connexion la moins bonne qui déterminera la connexion de tout le monde, ce n'est pas possible, pas en 2019, pas pour un jeu aussi important que Smash Bros, stop. Donc voilà, Nintendo, vous avez des gens sur votre service. Voilà, méritez votre argent un petit peu maintenant.
Vous avez deux semaines. Bordel. Élodie, la bande-annonce. La bande-annonce.
Oui, le drame, plutôt. Parlons-en. Le drame de ces derniers jours, c'est la bande-annonce de Sonic, le film, qui a enfin été dévoilé. Je dis enfin.
On avait le design du personnage déjà, quand même.
Ouais.
Ah, on avait eu un screen qui était passé un petit peu.
Mais on ne pensait pas que ça allait être si laid, quand même.
Ouais.
Donc ça a provoqué un espèce de petit cataclysme sur Twitter et ailleurs parmi les fans de jeux vidéo évidemment et les autres, les gens qui sont respectueux juste du cinéma tout simplement. Que dire sur cette bande-annonce qui dure 3 minutes et qui est douloureuse pendant 3 minutes.
Il y a Jim Carrey quand même qui
en Docteur Robotnik
en roue libre.
Le Guardian a écrit que c'était un mélange, j'ai trouvé ça très juste, entre Hercule Poirot et Neo de Matrix et c'est exactement
c'est exactement ça. Il est extraordinaire, Jim Carrey. Je trouve dans quelques minutes, il est incroyable.
Il est Jim Carrey. J'ai envie de dire, il joue un peu toujours le même rôle. Donc voilà. Et le pauvre petit Sonic, à qui on a mis des dents de lait. Donc qui fait très peur. Ils lui ont fait des tout petits yeux.
C'est chaud. Hein.
Et il ressemble pas du tout à un hérisson surtout. Ils lui ont fait des longues patounes.
Comme les derniers designs des derniers jeux Sonic c'est affiné avec des longues.
Il est slim fast le Sonic.
Alors ça c'était la première chose.
Alors il y a ce problème de design, mais est-ce que c'est pas l'idée même de faire un film en live
Et moi je trouve ça fascinant d'en faire un
qui
film
est un problème.
Live. Et moi je trouve ça fascinant. Et c'est pour ça que la réaction, on a appris ça ce matin, c'est tout frais, hein, a priori de la production, de retoucher le rendu de Sonic qui a tant fait crier sur les réseaux sociaux. Je trouve ça un rétro-pédalage et je trouve ça triste. Oui. Moi ce film, je le voyais déjà comme mon proche. Moi j'ai dans ma DVD tech, j'ai un petit rayon nanar adapté de jeux vidéo.
C'est vrai que
j'en ai quelques-uns. C'est vrai que je les aimais bien. Non, mais c'est vrai, ils sont bien alignés. Et j'avais déjà fait une place pour Sonic.
Qu'il y a déjà eu des films adaptés de jeux vidéo qui sont bons?
Non, on ne peut pas.
Silent Hill qui n'était pas trop mal.
Exactement, le Silent Hill de Gantz est pas mal.
Apparemment, Détective Pikachu est bien parti pour être un bon film.
Les Tomb Raider, les premiers Tomb Raider avec Angelina Jolie sont à peu près visibles.
C'est pas des bons films. Ce sont des plaisirs coupables qu'on assume.
Non, mais c'est bof.
C'est un plaisir coupable.
Il y en a une dizaine dans les cartons. On attend Uncharted. On attend.
On attend, c'est façon de parler.
Non, mais c'est symptomatique. Moi, ça m'a frappé ce matin cette réaction de dire on va retoucher Sonic parce que ça a crié sur Twitter. créateur.
De toute façon, il ne faut jamais toucher aux trucs sacrés des joueurs. Attention, c'est leur ego qui est complètement bousculé.
Je trouve qu'un rétro-pédalage comme ça, c'est grave parce que finalement, qui décide, ça va être justement, ça va être les réactions. Il faut aussi que ces gens-là fassent leur film. Ça allait être un bon nanar, bien assumé. Et je trouve ça inquiétant. Mais c'est pas les seuls. Hein. Enfin, je pense que Star Wars, on voit aujourd'hui ce que devient Star Wars.
Il faut arrêter de sacraliser.
C'est pas que les gamers, je pense.
Non, mais c'est pas général.
C'est un gros pan de la pop culture.
Et Star Wars a ce problème, c'est que Star Wars n'arrête pas d'écouter. Enfin, voilà, la fabrique des films Star Wars n'arrête pas d'écouter les retours justement des réseaux sociaux et ce qui nous donne des films tièdes qui n'arrêtent pas de se remettre en d'être réévalués. Dommage. Bon, on verra. Je sais pas ce qui va retoucher en fait. Ce qui va être touché, c'est le look de Sonic. A priori, c'est vraiment le rendu.
Ils pourront pas toucher aux proportions puisque les scènes sont déjà tournées. Ça, les regards des acteurs sont déjà posés.
Et en combien de temps
Justement, il risque d'y avoir un gros crunch pour les artistes et ça, c'est nul.
Bon, ouais.
Voilà.
Le film est attendu en février, donc ils ont encore le temps. Enfin, il sort plutôt aux États-Unis, je crois, mais en France en février. Ouais, donc bon.
Novembre aux États-Unis.
Oui, c'est ça. Ouais.
Donc c'est court. Un vrai hérisson et l'intégration.
Non, enfin, c'est un vrai hérisson. Mais oui, mais pourquoi ils n'y ont pas pensé
C'est le principe.
Moi, j'en ai un dans mon jardin. J'aurais pu le prêter.
Surtout que le film en VO s'appelle Sonic le hérisson. Des fois que
oui, parce qu'on pourrait avoir un doute. En fait.
Oui.
Peut-être que la prod n'a jamais vu de hérisson.
C'est vrai que la bande-annonce, quand tu le regardes, c'est ouf.
Non, mais à partir du moment où
justement, c'est précieux qu'un nanar comme ça puisse sortir aujourd'hui.
Non, mais à partir du moment où il y a un film qui s'appelle Sonic. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'autre? J'ai moi ma question.
Truc totalement barré, méta, comme ils font. De toute façon, Sonic, le Sonic premier degré est mort. Mais ça fait longtemps qu'il est mort. Maintenant, Sonic, il survit par son second degré. La série Sonic Boom l'avait compris, et c'est une excellente série, alors que le jeu est terrible. Et d'ailleurs, je crois même que la série se moque du jeu, c'est pour dire à quel point on est méta. Sonic maintenant fonctionne par le second degré, par sa propre moquerie.
Un film d'auteur,
Tu rigoles.
Sincèrement, attends, Jim Carrey, je pense, c'est bon. Tu le mettais sur un bureau avec un hérisson pendant une heure et demie à filmer en monologue. Il y avait un truc à faire.
Mais oui,
existentialiste.
Patrick, tu vois, je t'enverrai
l'image du hérisson, je vais t'envoyer, etc. Le mythe de Sonic, ce qu'il est devenu.
Je vais t'envoyer un court métrage sur Vimeo. Il est extraordinaire, c'est Sonic, sur Vimeo.
C'est vrai ?
C'est sur Sonic, on dirait un film Sundance, c'est sur c'est
balance,
Sonic.
Balance.
Je te l'enverrai, c'est trop bien. C'est trop bien. Le Sonic, c'est un gamin dans une pauvre tenue, il est déguisé en
c'est
Sonic,
ça qu'on
mais
voulait.
Il est triste, mais, il est tout triste.
Ouais, ou un film à la Michel Gondry, il y avait vraiment un truc
Et Robotnik est un vieillard dans une maison et il est sur le point de mourir. Non mais c'est génial, je te l'enverrai.
Mais ça, je prends.
Ok. D'accord, d'accord. Le comme des coms de la semaine dernière, on en a un, juste Alenson qui nous dit pour Passway.
Il y en a un ?
Non, mais sais. En même temps, il n'y a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a un.
T'inquiète pas.
Oui, il y en a un. Je vois bien.
Mais en fait, je crois que j'ai oublié de poster le podcast aussi sur Twitter. J'ai oublié de.
Je l'ai posté au bout d'un moment. Je l'ai posté.
Ouais. Je crois que le community manager de Silence en Joue a fait du travail pourri. Hein, donc, on l'a viré. Alain San pour Passway et pour parler de Chucklefish. Vous en parliez comme si c'était des développeurs qui sont habitués à des jeux de strat. Mais Chucklefish est juste un éditeur qui laisse énormément de liberté aux équipes de dev qui ont décidé d'éditer. Donc Wargroove et Passway n'ont strictement rien à voir, ce qui peut expliquer que les mêmes erreurs apparaissent dans les deux jeux. Ils sont aussi développeurs et leur premier jeu a été Starbound. Enfin voilà. Et en fait, il fait tout un speech à Lensan sur Chucklefish. Il dit quand même que pour le futur, il faut attendre 3 ou 4 pépites à venir, dont Eastward, une sorte de Earthbound jouable en coop qui a l'air top. Witchbrook, qui est un mix entre Stardew Valley et l'école de Poudlard de Harry Potter. Ça me fait plutôt envie en fait.
Ça
a l'air pas mal. Et Witchmarsh, qui est très difficile à classer, une sorte de RPG action en 2D dans un monde Lovecraftien. Voilà, il y a des choses à attendre côté.
Je suis d'accord que ce n'est pas les développeurs, mais en général, les éditeurs ont quand même un minimum de regard et donnent des conseils et dirigent un tout petit peu les studios qui.
Donc là, ils auraient pu faire un taf. Il y avait un taf d'éditeur à faire.
Il y avait un taf d'éditeur à faire. Et surtout que c'est les mêmes erreurs. Et oui, évidemment. Par exemple, moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est le système de difficulté dans les deux jeux, dans Passway et dans Wargroove, qui est le même, enfin quasiment le même. On choisit pareil, on a des petits curseurs à déplacer. Je veux bien que ça soit une coïncidence, mais c'est quand même les deux seuls jeux depuis toutes ces années qui font ça. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui leur a dit même « Eh, ce serait cool que vous fassiez un truc ». Je dis évidemment pas que c'est eux qui ont développé le jeu, mais il y a forcément des discussions, des conseils, des directions. Ça, c'est sûr.
Eh bien, c'est pas Chucklefish, mais c'est les gens d'à côté. Hein. C'est signé Devolver Digital et c'est Katana Zero. Yeah! Alors, il y a un katana, donc il y a un samouraï. Donc il faut tuer des gens et on avance dans une histoire. C'est Katana Zero. Qui je lance dessus ? Allez, je vais lancer Corentin sur un Katana Zero. Alors, ça donne quoi ?
Katana Zero, donc on est dans un univers très synthwave. Hein. C'est pas comme si on n'avait pas bouffé et bouffé ces derniers temps. Mais bon, on est encore. Je pense qu'on est sur les derniers jeux et dernières œuvres synthwave là, parce qu'on va arriver sur les années 90 maintenant. Donc ça sera encore, ça sera autre chose, je pense. Ah, t'es pas sûr ? Je sens que Patrick fait la grimace, mais on verra bien. Quoi qu'il en soit. Voilà, on est dans un univers néo-futuriste, plutôt rétro-futuriste, puisque en fait, il y a des lasers, il y a des technologies qu'on connaît pas, des drones avec des mitraillettes, voilà. Mais on écoute encore sa musique sur des cassettes avec son Walkman. Mmh. On va louer des VHS au vidéoclub du coin et ce genre de choses. Donc, vous voyez un petit peu l'univers dans lequel on se situe. On incarne un samouraï qui est en réalité un tueur à gages qui est employé par un mystérieux commanditaire qui semble avoir de grosses relations quand même. Hein. Il a des moyens et c'est assez étonnant parce que ce commanditaire est représenté dans le jeu par une sorte de psy finalement, parce qu'on a des séances chez le psy, donc on est ce petit samouraï là avec son sabre, on va chez le psy, on s'assoit dans le divan, on nous pose des questions. Alors vous avez bien dormi ces derniers temps, comment ça se passe en ce moment, vous faites toujours les mêmes cauchemars? Nous on répond et puis à la fin on nous fait une petite injection et puis bon bah vous prendrez le dossier en partant, prenez le dossier en fait c'est votre cible et c'est la personne que vous devez tuer et éventuellement des consignes supplémentaires comme ne tuez personne d'autre que la cible, ne parlez à personne d'ailleurs.
Ne parlez pas à votre cible.
Voilà, ne parlez pas à votre cible, il y en a un, il ne faut pas lui parler apparemment, ce genre de choses. Puis ensuite, on est parti dans plusieurs missions, donc voilà, un petit peu le déroulé du jeu, ça va être cette boucle, hein, psy, mission, scénario, etc. Et le jeu en lui-même, eh bien, on est dans un jeu d'action en 2D qui, dans le système de jeu, pourrait pas mal s'apparenter à Hotline Miami dans le sens où on doit vider des tableaux des ennemis qui s'y trouvent. Sur la règle de tu prends un coup, t'es mort, tu mets un coup, ils sont morts.
Ça, c'est sans barre de vie en fait.
Il n'y a pas de barre de vie.
Ni pour nous, ni pour eux,
c'est ça. Donc, beaucoup de morts pour nous. Et donc on recommence, mais on recommence très vite aussi parce que notre samouraï donc non content de voir à travers les murs, puisque comme dans Hotline Miami on a une vision en 2D de tranche, donc on voit tout. En fait, on voit quelles salles sont occupées, s'il y a des issues, par où on peut passer, comment on peut prendre avantage de la disposition des salles. Mais on peut aussi prendre avantage du temps. Et c'est une des principales mécaniques de jeu de Katana Zero, c'est qu'il peut ralentir le temps d'un coup de gâchette et ainsi faire des actions qui sont compliquées à faire, mais qui sont faisables, mais qui sont compliquées à faire, comme par exemple renvoyer les balles avec son sabre quand on nous tire dessus, parce qu'évidemment, les gardes du corps qu'on va devoir se farcir pendant les différents niveaux sont bien armés, voire même on disposait des pièges et donc par moment il va falloir vraiment la jouer serrée pour pas prendre une balle perdue quoi. Et donc voilà à peu près l'intégralité de ce qu'a nous proposé Katana Zero en termes de gameplay et d'histoire. Je vais pas rentrer dans le détail pour l'histoire parce qu'elle est un peu complexe, mais on va dire que toute la trame se tourne autour de cette drogue qu'on nous injecte à chaque séance qui s'appelle la Chronos et qui en fait explique deux choses. Le fait qu'on puisse ralentir le temps et le fait qu'on puisse recommencer quand on meurt, parce qu'en fait ce n'était pas vraiment le présent mais une vision du futur. En fait il voit dans l'avenir et il fait par où je peux passer pour pas mourir, et donc ça explique pourquoi on peut recommencer autant de fois sans mourir. En fait
ça c'est rigolo, c'est ce système de jeu vidéo qui est intégré dans la narration,
dans
c'est-à-dire qu'en fait le die and retry c'est des tentatives d'exploration dans le temps, et au moment où on a réussi le niveau le jeu dit ah oui ça devrait marcher comme ça. Voilà. Et donc à ce moment-là, le niveau se relance de la manière dont on l'a réussi, histoire de dire, en fait, tous les moments où tu es mort, c'est parce que tu testais les différentes possibilités. Et donc le die and retry est intégré à l'intérieur du scénario.
Moi, tous les jeux qui essaient d'intégrer les mécaniques de gameplay dans leur diégèse, je dis oui, j'apprécie, c'est quelque chose qui est sympa à faire. C'est pas toujours facile et souvent ça demande de jouer avec des mécaniques temporelles, c'est vrai. Mais là, ça marche plutôt bien, d'autant que la mise en scène est bonne, ça fait partie des vrais bons points de Katana Zero. En même temps, la mise en scène qui va avec sa direction artistique générale, qui est également très réussie.
La
musique qui est très solide. Ouais. On est sur de la synthwave, comme on a pu entendre là il y a quelques instants. La bande-son s'écoute au travail, très bien. on est vraiment, si vous aimez les délires qu'on a pu avoir dans Hotline Miami, hein, vraiment, vous allez aimer la bande-son. Moi, je la trouve un poil en dessous d'Hotline Miami, mais franchement, celle d'Hotline Miami était tellement hallucinante que c'est compliqué de toper ce niveau-là. Alors après,
Là, les compositeurs, c'est Bill Kiley et Ludovic.
Ils sont plusieurs. Ouais. Il y a même le créateur du jeu, donc, qui s'appelle Justin Stander, qui a même écrit quelques musiques, qui a co-composé certaines musiques. Parce qu'en fait, le jeu alterne entre les phases cinématiques et les phases de gameplay. Les phases de gameplay vont être un petit peu plus électrique, un petit peu plus excité, on va être vraiment dans la synthwave néo-futur, tout ce que tu veux.
Ouais, fusion, action, musique, ça, voilà. Comme dans Hotline. Hein.
Comme dans Hotline.
Vraiment une fusion de... Et l'expérience totale, quoi.
Et les phases chez le psy, chez soi, qui sont plus noires, films noirs avec du jazz, ce genre de choses.
C'est pas
un peu plus calme.
Point fort du jeu pour moi.
Ah, on est d'accord.
Moi, je suis plutôt, en général, hein, vous me connaissez, je suis plutôt attaché à l'aspect narratif des jeux. Là, c'est presque ce qui me faisait sortir du jeu, en fait. Alors, est-ce que c'est dû, je sais pas, j'ai trouvé que la VF était pas très. Les textes n'étaient pas forcément bien écrits. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs avec ces passages chez le psy. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait vu, par exemple, je sais pas, dans Until Dawn aussi, le jeu d'aventure, on avait aussi ces passages chez le psy, mais ça s'y prêtait plus, c'était plus dans le tempo du jeu. Là, je trouve que ça ralentit complètement le truc, et c'est pas forcément très, très heureux. Enfin, moi, j'ai pas accroché à ça. Moi, pour moi, c'est le cœur du jeu, c'est son expérience de gameplay. Enfin, il y a quelque chose de très esthétisant. Moi, ça m'a rappelé, ça m'a évoqué un Max Payne en 2D, en fait. Ce côté jouissif de refaire les niveaux, c'est-à-dire que c'est un die and retry assez dur, c'est vrai qu'on a des passages assez, assez costauds et assez punitif, mais on y revient toujours en fait. Mmh. Et puis il y a ce côté un peu de jouissif de maîtriser un niveau comme dans Max Payne où on connaissait. Je sais qu'Erwan, t'es aussi assez
moi,
fan de Max Payne.
Je pense que j'en ai déduit que j'ai une appétence pour le slow motion.
Mais on est d'accord. Et quand il est bien, et c'est vrai que là on peut vraiment s'éclater à maîtriser un niveau et même à le refaire quand on connaît justement les différentes étapes, comment on va réussir. Et puis pour moi, c'est vraiment sa force. Bah, évidemment, il y a la réalisation, c'est vrai qu'il est péchu, il y a cette. Moi, ce que je trouve hypnotique, hein, le son, la musique et l'action en même temps. Et puis, toujours cette sensation qu'il donne que tu es libre de créer, de traverser un niveau à ta façon. Alors, ouais. C'est pas toujours le cas, parce qu'en général, évidemment, c'est plutôt en entonnoir. Mais le gameplay est assez. Il y a quand même une certaine richesse dans les possibilités. Et tu as toujours la sensation que c'est toi qui vas décider de comment tu vas te débarrasser de tel ou tel type, ou tu vas trouver une astuce pour aller plus vite. Et ça, je trouve que c'est vraiment là où le titre a réussi quelque chose, c'est à te livrer comme ça à des outils et débrouille-toi et crée toi-même ta partie, crée toi-même ta façon de traverser un niveau, comme Max Payne le faisait avec un côté très esthétisant. Et là, on a une esthétique complètement différente parce qu'on est en 2D, pixels, et une musique qui n'a rien à voir avec ce que faisait Max Payne.
Mais tu parlais de la manière de faire le niveau, sachant qu'il n'y a pas tant d'options que ça,
oui,
au final.
Finalement, non. Mais tu as une sensation.
Bien sûr, mais au niveau de ce que peut faire notre samouraï, alors sauf une exception plus tard dans le jeu, mais on va pas l'aborder parce qu'elle est vraiment exceptionnelle, où on joue un autre personnage qui a d'autres pouvoirs, etc. Mais on peut faire quoi ? On peut uniquement rouler.
Il est trop court ce passage-là.
Mais je suis d'accord, et on joue qu'une seule fois. Bref, on va peut-être y revenir. On peut rouler, on peut esquiver, on peut donner un coup de sabre, on peut sauter et on peut prendre et lancer les objets. C'est tout ce qu'on peut faire.
Donc, et jouer avec le temps, évidemment.
Et ralentir le temps, bien sûr.
Importante pour passer certains obstacles.
Et c'est là où je trouve que le jeu a un autre point fort, c'est que je trouve qu'il équilibre suffisamment bien les niveaux pour que ça nous donne un vrai défi, que ça nous donne envie d'utiliser le ralentissement du temps. Mais plus le jeu allait, et en fait, le ralentissement du temps, je ne l'ai pratiquement pas utilisé parce que je trouvais ça plus fun d'essayer justement de réussir par cœur niveau, quitte à mourir plein de fois. Je suis mort plein de fois.
À l'ancienne, quoi.
Mais je me suis dit, non, mais là, j'ai envie de mettre mon coup de sable pour envoyer la balle sans le ralentissement du temps. Mais en même temps, il te laisse le choix. Donc tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et ça, c'est super cool. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie d'utiliser le ralentissement du temps, tu peux le faire. Si tu veux l'utiliser, tu peux l'utiliser. Et en plus, tu as quand même la jouissance de la belle action parce qu'à la fin de chaque segment, tu as, grosso modo, tu as été enregistré sur une cassette VHS et tu peux diffuser ce que tu as fait, vitesse 1, un petit peu comme dans un Super Hot par exemple, où on a aussi cette jouissance de l'action en temps réel que tu as faite.
C'est marrant, moi,
c'est vraiment chouette parce que tout le monde y trouve son compte.
J'ai pas trouvé ça transcendant, moi, l'idée qu'en fait tu es en train de jouer une possibilité d'action qui finalement va se matérialiser quand tu l'as réussi. Enfin, j'ai l'impression que tous les jeux font ça, tous les jeux en Dungeon Retry font ça, et là j'ai l'impression d'un peu d'un petit gimmick esthétique qui. On n'a pas parlé plus que ça.
C'est un gimmick narratif.
Encore une fois, c'est le cœur du gameplay, moi, qui m'a branché. Tout cet enrobage, un peu de, tu vois, un peu de, voilà, méta. Je l'ai pas trouvé toujours très bien amené.
En fait, le truc, c'est qu'on s'en est pas parlé. On s'est pas parlé avant, mais moi, j'ai vraiment adoré. En fait, c'est très, 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 très bizarre. J'ai vraiment adoré l'espace. Par exemple, l'espace narratif, l'univers narratif de Hotline Miami, j'ai jamais rien compris. les mecs avec des masques
et tout
ça. J'ai rien capté. Et Hotline Miami, pour moi, je passais les trucs. Je voulais même pas. Ça m'énervait tellement de rien comprendre à l'univers que je passais très très vite l'histoire parce que je voulais. Me parlais pas.
Ouais, mais il y avait une élégance. Il y avait une élégance.
Non, mais je te parle
dans l'univers.
Je te parle juste de l'existence d'un univers. Moi, Hotline Miami me gênait parce que je sais pas, il y avait quelque chose soit qui me mettait mal à l'aise ou je comprenais rien, je savais même pas ce qu'on voulait me dire. Donc moi, je voulais les niveaux. Et ben là, il y a ce côté un peu barré, peut-être un peu élitiste, un peu pompeux. On l'a dit avant l'émission, Corentin, d'une histoire qui se veut un peu plus compliquée et tout ça. Mais en même temps, elle est expliquée, elle est pas pompeuse dans sa narration, c'est-à-dire que il va dire les trucs, il y a des tropes entre guillemets qu'on connaît avec le tueur à gages qui rencontre la petite fille, sa petite voisine dans le couloir et qui va se laisser attendre. C'est des tropes hyper connues. On est en terrain connu. Je veux dire, il est peut-être pompeux dans son univers un peu complexe, mais dans sa narration, je trouve assez accessible. Te prends pas à l'envers,
c'est
en fait.
C'est peut-être tout le problème du jeu, c'est qu'on comprend ce qu'il nous dit. Alors d'accord. Que Time Miami, je suis allé là, le wiki, c'est n'importe quoi. Mais au moins, j'avais pas compris quand j'ai joué.
Et je pense qu'on n'oubliera jamais Hotline Miami. Alors que celui-là, je suis pas sûr que son univers le gardera. Par contre, le gameplay, oui,
je sais. J'ai trouvé ça assez sympa et le fait est que les niveaux sont très très agréables à jouer. J'adore le côté slow motion. Bon, là, il y a une jauge de slow motion. Des fois, elle se vide, donc on est obligé de faire avec. Moi, je suis arrivé quasiment au bout, donc je dois être au boss de fin ou pas très très loin. Et j'ai vraiment passé un excellent moment à tous les niveaux, vraiment au niveau narration, au niveau les histoires, parce qu'en plus ils jouent sur le mode de jeu, sur le jeu sur le temps influe aussi la narration, où il y a des ellipses où on ne sait pas ce qui s'est passé entre temps et il y a des choses qui se sont passées mais qu'on a oublié. Il y a le côté sur l'amnésie aussi qui joue beaucoup.
Le héros amnésique qui revient de la guerre.
Je trouve ça.
Non, mais heureusement. Entre deux séquences narratives comme ça, il y a du gameplay. Moi, je trouve qu'il est assez intouchable.
Pour moi, le vrai problème aussi, enfin, il y a un autre vrai problème. Donc, le premier problème pour moi, c'est le scénario qui prend trop de place, enfin, voilà. On passe au moins autant de temps dans le scénario que dans le jeu, et le scénario est mal exécuté, à mon sens. Les mises en scène sont bonnes, il y a des bonnes idées de temps en temps, mais dans l'ensemble, c'est mal fait. Et je termine, c'est que le jeu n'a pas de. Il n'y a pas particulièrement moment fort mémorable. Il n'y a pas de séquence de jeu que je vais retenir, je pense, dans un an de Katana Zero, contrairement, par exemple, à d'autres jeux comme Hotline Miami.
Ah non, je ne suis pas d'accord. Il y a des vraies séquences de jeu, il y a des vrais niveaux cool. Il y a une séquence d'interrogatoire que moi, j'ai trouvé hyper cool, narrativement et au niveau du gameplay. Je sais pas.
Ouais, mais franchement, par rapport à Hotline Miami 2, hein, que je trouve qui est plein de défauts, mais par rapport au dernier niveau de Hotline Miami 2, mais moi qui m'a mis une claque, la fin de trip où on prend de la drogue et on se met à buter tout le monde, ou alors la fin de Hotline Miami 1, même où on joue le casque, là, le mec qui porte un casque, moi je m'en souviens de ça, mais fortement. Là, franchement, je pense que je vais avoir du mal à me rappeler d'une séquence forte qui m'a marqué, parce que aussi, on nous insère trop de personnages tout le temps qui, au final, ne sont pas conclus. Enfin, il reste vivant et en fait, plein de questions restent ouvertes à la fin du scénario. Le jeu, et je tiens à prévenir, l'histoire du jeu n'est pas terminée. Ça termine sur un to be continued à la fin, avec des questions ultra ouvertes, avec des mecs dans la pénombre, assis dans leur siège, qui font lancer la deuxième phase du plan.
Après, très franchement, un jeu comme ça, est-ce que tu y joues pour l'histoire? Je suis pas convaincu.
Bah, quand on
tu y joues pour l'expérience, pour le gameplay, et là, je trouve qu'il est réussi. Après, sur l'enrobage, clairement, il y a des choses qui
oui,
tournent
pas.
Oui, mais
l'enrobage prend beaucoup de place quand même.
Et oui,
l'enrobage prend énormément de place.
Des passages assez longs.
Moi, j'aurais bien voulu deux niveaux supplémentaires et moins de scénario, et j'aurais été clean avec le jeu personnellement. Ouais. Mais sinon, oui, je suis d'accord avec toi, le jeu est irréprochable à part ça.
Précision, hein, et je parle de mon niveau de joueur très très moyen, il est beaucoup plus accessible en termes de gameplay que Hotline Miami.
Oui absolument.
Ouais. On fait la comparaison parce qu'on est sur une ambiance, mais...
On est sur un game loop aussi, on meurt, on recommence, on recommence.
J'ai du mal avec Hotline Miami.
Moi aussi, beaucoup.
Et pour le coup, c'est un jeu qui se parcourt, on meurt, mais on n'est pas en termes de hardcore, on n'est pas très très haut. Il est
Et ça, c'est une bonne chose à mon
c'est
sens.
C'est une très bonne chose.
Il est beaucoup plus accessible que d'autres Die and Retry de ce genre-là. Et c'est pour ça que j'estime que c'est un peu un Hotline Miami Lite à tous les niveaux, mais aussi plus accessible du coup. Donc ça peut être cool.
Pour te dire, à la fin du jeu, j'ai réussi des niveaux après, en mourant 3 fois. Wow. Hein. Et on est à la fin du jeu. Et voilà.
Et c'est là que tu vois quand même qu'il y a un problème de courbe de progression et de difficulté, tu
pas
vois ce que
tout.
Je veux dire? Mais si.
Enfin, pas du tout.
Il faut en baver un tout petit peu, au moins à la fin du jeu. Au moins à la fin du jeu.
Ah non, mais j'en bave à la fin du jeu, hein. Ouais. Le boss de fin.
Bah, moi, il n'y a pas de montée en puissance, notamment dans le design
mais
des niveaux.
Mais t'es trop doué, Corentin.
C'est pas une question d'être doué. Il y a des jeux qui sont faciles au début et moins faciles à la fin. Mais là, je trouve qu'entre le début et la fin, c'est aussi dur. Et c'est un problème pour moi, pour un jeu vidéo, tu vois ce que je veux dire?
Katana Zero, c'est sur Switch et sur PC. C'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique jeux de société. Salut Jérémy!
Salut Erwan! Alors cette semaine, on se retrouve dans le Londres du 19e siècle, dans les pas d'un personnage de la littérature anglaise que vous connaissez tous, Oliver Twist. Et c'est une des plus belles boîtes de ma collection. Elle est très belle comme ça, en forme de grand livre vert avec ses ornements dorés. Il y a aussi de superbes illustrations et puis comme ça, une mécanique d'ouverture en tiroir. Une fois la boîte ouverte, le matériel ne déçoit pas, lui non plus. On y trouve plusieurs types de cartes, des jetons, des pions, et surtout 4 décors en forme de prisme triangulaire comme ça qui représentent des toits de maisons typiques anglaises. On va pouvoir sur son dos, un petit peu comme au Scrabble, poser les différents jetons qu'on va ramasser. À l'intérieur, sur la gauche, il y a un petit tiroir sur lequel on va pouvoir planquer des petits objets qui ne doivent pas être trouvés par la police. Et puis sur la droite, il y a une ouverture en forme de grenier avec une petite fenêtre et puis l'illustration d'un matelas posé par terre. C'est notre chambre, c'est là qu'on va planquer notre pognon. Au centre de la table, il y a un grand plateau qui représente quelques rues d'un quartier de Londres. Des objets de toutes sortes y sont posés à la queue leu-leu le long des rues. Ils représentent ce que nos petits pickpockets devront aller chipper dans les poches et dans les sacs des passants. On va y trouver des pommes, des broches, des colliers, des anneaux, des montres, des portefeuilles, etc. La mécanique est très simple, si on prend le tout premier objet, alors on le rajoute à sa collection, mais si on saute par-dessus, alors il faut aussi le prendre mais le mettre de côté et prendre un risque, celui d'être ensuite découvert par la police. Et évidemment, on va faire attention à ce que les autres joueurs collectionnent pour ne pas les laisser prendre ce dont ils ont besoin. Une fois qu'on a les mains bien pleines, on peut aller voir Fagin, vous savez, Fagin en anglais, ce méchant, vil, hideux personnage qui va apprendre aux enfants à voler et qui va tirer profit de leur triste talent en leur rachetant les objets à une valeur moindre. Pendant la journée, on pourra aussi ramasser des pieds de biche, des cordes, des sacs qui vont nous servir ensuite pendant la nuit pour cambrioler des appartements. Et oui, puisqu'une fois le côté recto du plateau terminé, on passe sur le côté verso qui représente le même quartier mais la nuit. Alors je spoil la fin de la chronique, mais c'est un jeu de Bruno Catala et de Sébastien Pochon, donc la mécanique, elle fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais surtout, ce jeu, il a comme un petit supplément d'âme. Il est mélancolique, il y a très peu de narration, mais on est quand même transporté dans l'œuvre de Charles Dickens. Il est édité chez Purple Brain, les illustrations sont de Mo Chalmel, de 2 à 4 joueurs pour des parties de 45 minutes, ça marche à partir de 10 ans. Et moi, je vous dis à bientôt pour parler de jeux qui sont vraiment animés par la passion, puisqu'il n'y a qu'une petite poignée d'auteurs qui en vivent. Bye bye.
Je ne sais pas si c'est un argument valide, ça.
Non.
on se retrouve dans 2 semaines. Il n'y a pas d'émission la semaine prochaine. J'ai oublié de le préciser. Et puis, normalement, si tout se passe bien, dans 2 semaines, Jérémy Kletskin sera en studio avec nous.
Génial. Pour baver sur le jeu vidéo en direct.
En live. C'est le moment de partir dans The Walking Dead. Non. Dans Sons of Anarchy, non plus. Dans World War Z, non plus. Dans Last of Us, non. Non, non. Non, ouais.
Pas loin.
Dans un jeu Naughty Dog, pas loin. Non, on va partir chez Days Gone.
Et je sais quel genre d'homme il est et ce qu'il a fait. Tu crois que tu vaux mieux que lui? Et Ricky? Et moi alors?
T'as peur d'être ici? T'as peur de faire partie de quelque chose? On a besoin de toi ici et ça. Ça te fout une peur bleue. Il faut qu'on se serre les coudes. C'est tout ce qui nous reste.
C'est tout ce qui nous reste.
Sur PS4, grave. Non, mais il n'y a plus grand chose de prévu. Je me disais juste ça, en fait.
C'est vrai,
de gros jeux.
Tu le dis.
C'est bon.
Elodie. Ouais. Alors, ce Days Gone, ces zombies, cette horde.
Alors, Days Gone, c'est quoi? C'est la première grosse exclue Sony de l'année.
On est en mai.
J'ai cherché. Et je crois bien que c'est ça.
Tu as enquêté.
J'ai enquêté.
En même temps, ils en auront quand même eu quelques-unes depuis ces dernières années, quand même.
Alors justement, oui, parce que moi j'ai fini God of War il n'y a pas longtemps, que j'ai repris, et justement de passer de God of War à Days Gone, ça a été assez violent. Le jeu avait été annoncé lors de l'E3 2016, c'est un des rares jeux qu'on n'avait pas encore, qui n'était pas encore sorti, un des rares jeux, je crois qu'il ne reste plus que Death Stranding qu'on attend encore.
Et Last of Us 2.
Et Last of Us 2, exactement, en parlant de zombies.
Peut-être c'est bien qu'ils sortent pas ensemble.
Peut-être pas sur PS4.
J'espère quand même.
Moi aussi, j'espère.
Donc c'est quoi Days Gone? On attaque le jeu avec une cinématique assez vite expédiée où on comprend qu'on va incarner un espèce d'ancien biker, un peu façon Jax, donc tu disais des Sons of Anarchy, en beaucoup moins beau quand même.
ouais,
moins
je suis
sexy,
d'accord.
Beaucoup moins sexy que Jax.
Quoi? Non, t'es pas d'accord, Camille?
J'ai rien dit.
Jax, franchement, non?
Jax, il avait quand même la classe. On est donc Deacon St. John, un drifter. On sent que c'est un peu la merde, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a sa femme qui est blessée et il la largue dans un hélico pour qu'elle soit déposée dans un camp. Et il préfère, alors c'est là que, bon, déjà, j'ai des trucs à redire, mais il préfère rester avec son pote plutôt que de suivre sa femme.
Son beau-frère, en fait.
Son beau-frère.
Qui est son
beauf,
effectivement, aussi. Ça justifie pas plus.
Non, mais il le dit, si je reste pas avec lui, il va y rester.
Il
voilà.
Eh oui.
Donc il laisse.
C'est un moment déchirant, faut.
Non.
Vraiment pas.
D'ailleurs, ça me fait penser un peu à la cinématique de début de The Last of Us où on a un peu ça en fait, où il essaye de sauver sa gamine coûte que coûte et c'est un peu en parallèle, c'est un peu fait pareil.
Il y avait
et très expéditif.
Il y avait plus d'émotions quand même dans The Last of Us.
Et elle était jouable. Et elle était jouable.
Vite fait,
elle
était jouable. Dans la maison,
si,
ça,
si.
C'est ça, non?
Bah dans la maison, puis dans la ville.
Oui, enfin, ouais.
Bon. Non, t'avais pas aimé. Bon, moi, je suis pas objectif sur The Last of Us. Mais
moi, je suis. Ouais. Bah, moi non plus, mais dans l'autre sens.
D'accord. Mais là, c'est expédié.
Je pensais pas que quelqu'un d'autre trouvait The Last of Us. Bref.
On en reparlera.
Peut-être que Days Gone me réconciliera avec The Last of Us, du coup, je ne sais pas.
T'as pas aimé The Last of Us?
Non, j'ai pas autant aimé que les gens l'aiment.
C'est vrai.
Ouais,
peut-être.
Ah, ouais.
Pareil ici.
Ah ouais.
Pareil.
Bref.
Ce n'est pas un débat sur The Last of Us.
Désolé, c'est choquant, mais.
Donc, après cette intro où nous laissons notre femme dans un hélicoptère...
Voilà, on se retrouve 2 ans plus tard. Oui. Et donc là, on est confronté à quoi ? Des mutants.
Mm-hmm.
Un peu agressifs.
Un peu ?
Un peu. Pas autant que des White Walkers, mais quand même un peu agressifs. Mm-hmm. D'autres renégats qui font visiblement... J'ai pas très bien compris. Partie de notre gang, c'est aussi des drifters, mais on n'est plus potes.
Ce qu'ils appellent drifters, c'est des bikers. Hein,
voilà,
donc
c'est le gang...
Jones, quoi. Ouais, voilà, ouais, les Hells Angels.
Et on sait comment ils sont arrivés là, ces mutants
Ça va être plus tard.
Hein. Ah oui,
ça,
d'accord. C'est...
On ne sait pas. Il y a une organisation mystérieuse qui s'appelle Nero, dont on suit les hélicos beaucoup.
On visite leur base aussi, leur base de recherche.
On visite leur base de recherche, on remet le courant dans leur checkpoint.
Et le dress code des mecs de Nero, c'est, tu vois, les scientifiques de E.T.
Voilà. Oui,
c'est les mêmes. Oh là là, mais oui, c'est ça.
Non, mais c'est les mêmes. C'est les scientifiques de E.T. Ils sont, on les a pris.
Les mecs, ils arrivent, ils mettent une chambre stérile et ensuite ils t'attaquent.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
Je comprends tout à fait.
Voilà.
Et du coup, ça fait donc des années que les zombies sont là, en fait. Il faut que les mutants sont là.
Bah, on est deux ans après la cinématique, en fait.
Deux
ans après la cinématique. Et là, il y a un compteur, en fait, qui se met à jour. Voilà, c'est ça.
Et donc,
ce qui manque d'ailleurs dans une série comme The Walking Dead, c'est vrai qu'on n'a pas ce compteur. On l'imagine par la narration. Bah, tiens, un tel personnage, ça fait 10 ans que... Voilà, il faut... Alors que là, c'est là qu'il y a un compteur. J'aurais bien aimé l'avoir dans une série comme The Walking Dead. Enfin, c'est une parenthèse.
Et donc là, on arrive au cœur de l'Oregon. Voilà, on est au cœur de l'Oregon. Ça va être notre terrain de jeu. Et on incarne toujours Dick.
Deacon, surnommé affectueusement par ses potes Dick.
D'accord. Voilà. Et son pote...
Boozer.
Boozer. Et après, qu'est-ce que...
Boozer qui est blessé très vite au début du jeu, donc qui est le boulet un petit peu.
Ah oui, voilà, c'est ça, il est, voilà. Et on se rend compte assez vite que, grosso modo, il y a des factions, il y a des gens pas cool. Généralement, il y a des gens pas cool. Hein,
pas cool du tout.
Voilà. Et on a une moto et on se promène. C'est ça, non?
C'est ça.
Et qu'est-ce qui se passe après? Alors, ça donne quoi, le rapport au jeu? C'est quoi le but?
Alors, le but, on ne sait pas trop, en fait. C'est de survivre, surtout, déjà, dans un premier temps. Donc, et puis, d'essayer de rendre des services à des camps de survivants qui sont implantés sur le territoire. qu'on découvre au fur et à mesure. Voilà, donc la mécanique du jeu, elle est assez répétitive en fait, puisque on tue des zombies, qui sont pas des zombies mais qui sont des mutants, on tue des méchants qui sont méchants, et on essaye d'en savoir plus sur effectivement le pourquoi de cette épidémie qui a contaminé ces mutants. Sachant que très vite, sans vouloir trop spoiler, on se dit « Ah, mais peut-être que Sarah, elle serait pas morte, en fait. »
D'accord, d'accord.
Et on l'avait pas vu venir, ça.
Ah, oh là là, mais non, pas du tout, pas du tout. Pas, oh là là, pas du tout. Et donc, alors, moi, j'ai une question, parce que moi, j'ai fait mon intro en parlant des quelques références qu'on peut trouver, parce qu'on a... Très, très vite, on a cette impression-là d'avoir déjà... connaître déjà l'histoire, déjà rencontrer les personnages, déjà jouer aux différentes séquences de jeu, avec une seule grosse originalité qui a été un peu l'argument de vente de Days Gone, qui est la Horde. C'était l'argument de vente, la bande annonce. Non, ouais. Le film présenté en 2016.
Ah bah les premières démos.
On voyait le héros poursuivi par des centaines de zombies qui grouillaient
qui s'agglutinent et qui forment des espèces de pyramides un peu à la World War Z.
Ouais.
Et est-ce que... alors moi, j'ai joué quelques heures. J'ai été confronté à un ennui assez profond quand même, très très vite, parce qu'il y avait ça, il y avait ces éléments un peu connus. Est-ce que ça évolue? Est-ce que ça change? Ou c'est toujours...
Alors moi, j'ai joué, je pense, une quinzaine d'heures et j'ai toujours pas la sensation que ça évolue. Je suis passée par plusieurs stades. Le premier stade, c'était qu'effectivement, au début, j'ai été complètement bloquée par l'absence de fluidité dans le jeu. Déjà, les temps de chargement qui sont extrêmement longs.
La PlayStation 1, quoi.
Ouais, c'est ça.
La barre, là.
La barre qui se passe rien avec la bague qui tourne et qui rend fou, qui est hypnotisé par ce truc. Et tu te dis, mais jamais il va se lancer ce jeu, c'est pas possible.
Sûrement dû un développement un peu compliqué, je crois, de ce Days Gone.
Alors, ce studio, en fait, ils ont jamais fait de jeu sur PS3. C'est leur premier jeu sur PS4. Donc, ils sont vraiment lancés dans le grand bain.
Et leur fait d'arme, c'est le Uncharted
sur PS Vita.
Ouais. Ouais. Et un jeu Columbo sur Newton.
Donc, une fois que le jeu est enfin lancé, là, on est confronté à des espèces de lenteurs qui sont liées à... Il y a des écrans noirs entre les cinématiques et les phases de gameplay qui cassent complètement le rythme du jeu. Et du coup, ça, c'est un peu plus compliqué de se mettre dedans. Donc, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup freiné au début. Après, j'ai trouvé que les mécaniques de survie, qui sont quand même très présentes, sont plutôt intéressantes. On est confronté effectivement à une pauvreté. Alors, il faut prendre soin de sa moto, il faut la réparer tout le temps parce que ça se quinte vite, parce que les routes elles sont défoncées. Il faut remettre du carburant dedans. Alors,
la moto, elle fait du 800 litres au 100.
C'est ça.
C'est vrai.
Elle suce beaucoup.
Elle a peut-être une fuite. Oh,
peut-être. Pourtant, on la répare, mais non.
On l'optimise.
Elle a mission, elle est à 600 mètres. Tu vas en moto, t'as perdu la moitié de ton plein.
C'est ça.
Après, heureusement qu'on en trouve assez facilement quand même.
Heureusement. Ouais.
Mais c'est vrai que ça casse le rythme, comme tu
mais
disais.
Mais la première fois, j'ai couru à un camp pour essayer. Puis une fois que j'arrivais au premier camp, je me suis rendu compte qu'on pouvait la faire rapatrier dans le camp, ce qui est plutôt cool. Mais oui, sinon, c'est un peu la misère.
Et donc, ouais, on ne sort pas de cette boucle un peu répétitive d'éléments connus, en fait.
Bah, jusqu'à présent, moi, j'attends encore qu'il se passe quelque chose.
Après, combien d'heures de jeu, à peu près?
En ligne droite, j'ai lu 30 heures. Ouais. Ça me semble peu.
Ça dépend comment tu joues. Voilà, sur ce genre de titre, pareil. Ça dépend si tu prends le temps d'explorer.
Tu es quand même obligé de looter en permanence. Est-ce que tu as envie d'explorer ce monde? Bah, c'est ça.
Camille.
Moi, c'est un peu un pot pourri, en fait. J'ai l'impression, comme tu disais, il y a plein de... Ils ont pris un peu... Enfin, pas mal de choses d'autres jeux ou de d'autres médias. Enfin, les hordes de zombies, comme je disais, ça me faisait penser à World War Z. Hein, ces espèces de monstres qui s'agglutinent là pour former une pyramide.
Les zombies liquides.
Voilà, c'est ça. T'as les camps d'humains avec des petites villes reconstituées avec des hiérarchies et des grosses tensions. Ça me faisait penser à The Walking Dead plutôt. T'as l'indépendance des motards à côté, en marge, avec des gros tatous, des grosses bagues et tout. Donc là, c'était plutôt Sons of Anarchy, comme tu le disais. Et puis t'as aussi la fainéantise du R3 pour toute la surbrillance qui est très triple A saut 2018.
Ah,
on en avait déjà parlé d'ailleurs avec Tomb Raider.
Shadow of the Tomb Raider.
Voilà, c'est ça. Et il y a beaucoup de The Last of Us. Donc du coup, comme le studio est lié un peu à Naughty Dog, ça se comprend un peu. Mais du coup, comme The Last of Us, donc vous savez que j'ai un désamour pour The Last of Us, mais en moins... encore moins prenant, quoi. On a toujours une Amérique un peu déchue, pauvre, sale. Mais je la trouve, en fait, les décors, je les trouve bien plus génériques et un peu moins. Bon, après, c'est un monde ouvert, donc c'est un peu plus difficile aussi de créer des espaces marquants.
Ils sont jolis, les paysages.
Oui, c'est joli.
Une vraie carte postale pour aller visiter l'Oregon, quoi.
Ouais, mais
et qui d'ailleurs, il y a une vraie hype autour de l'Oregon, je trouve, entre Life is Strange.
Ouais.
Je pense qu'il y a un reminder un des vide. Goonies. Enfin, on a tous été marqués par.
Il y a un vide. Hein.
Mais je trouve que, déjà
c'est
visuellement.
C'est la patrie du hipster, l'Oregon. Hein.
Je pense que c'est une sorte d'Eldorado.
Ah, c'est ça.
Il faut aller là-bas, quoi.
Exactement.
Moi, je sens l'appel de l'Oregon, clairement. Mais bon, bref.
Et j'ai l'impression qu'ils font comme The Last of Us, qu'ils essayent de faire tout reposer, en fait, sur le scénario et les personnages et les liens entre les personnages. Parce que quand tu vois les gunfights, je parle avec les humains, pas avec les monstres, où là, ça devient justement intéressant et il y a une vraie tension. Mais avec les humains, c'est en fait, l'IA est complètement pétée. Donc, du coup, ça sert à rien d'essayer de faire. Je sais pas si vous comprenez quand je fais tchit, mais bon.
De l'infiltration.
Voilà, merci. J'ai trouvé plus le mot. Là, au final, tu fonces dans le tas, ça va plus vite et c'est moins chiant. Voilà. Ouais. Mais c'est, du coup, c'est. Ça casse un peu.
Je trouvais que c'était aussi, tu vois, ce qui était un peu faible dans The Last of Us, finalement, les gunfights.
Oui, attendez, on n'est pas du tout sur le même type de jeu.
Finalement, tu retrouves les mêmes défauts.
Je suis sur l'univers, mais après, la proposition n'est pas du tout la même. Là, on est sur un open world quand même assez vaste. Moi, c'est clair, en y jouant.
Ouais, mais c'est un open world, mais au final, tu fais tellement d'allers-retours. Enfin, t'es pas non plus là en train de gambader et de vivre un nouveau monde.
Moi, j'ai pas mal regardé. Je trouve que les décors. En plus,
on n'est pas sur RDR2 quand même.
Exactement, c'est ce que j'allais dire.
Non, mais alors, moi, en plus, c'est un studio qui est installé là-bas, donc je pense qu'il y a un amour de la région. Ça se sent. Là, tu sens qu'ils ont vraiment voulu soigner.
Tu sens même la cime des sapins.
La peinture de l'endroit.
C'est juste une peinture pour moi.
Moi, je suis d'accord. En fait, ce jeu, il n'invente rien. Clairement, effectivement, on peut faire une longue liste des choses qui sont prises. Moi, j'ai beaucoup pensé à Ubisoft. Tu sais, au canevas Ubisoft avec plein de détails sur la collectionnite d'objets que tu vas récupérer.
La radio
avec un ton assez trash. Là, on a une radio complotiste qui nous balance plein de trucs complètement ouf. Et j'arrêtais pas de penser, j'avais l'impression de jouer à un jeu Ubisoft. C'est vrai qu'on retrouve pas mal de gimmicks de ce côté-là. En fait, ça m'a fait pas mal penser à une vraie série B que j'avais beaucoup aimé à l'époque, c'était le Mad Max de Avalanche, qui était pareil, qui n'était pas un jeu qui inventait des choses dans le genre de l'open world, mais qui était plutôt bien ficelé et qui marchait bien. Et moi, je prends plaisir avec ce titre. J'avoue, alors vous allez dire, oui, c'est un bon public, il aime bien. Moi, c'est un open world avec des zombies mutants. et moi, non, vraiment, je trouve qu'il est. Alors, je pensais pas mal à toi, Erwan, en jouant, parce que je me suis dit, bon, il y a la touche R3 qui met en surbrillance les objets. Il y a l'arbre des compétences de la moto et de nous-mêmes, qu'on peut faire évoluer. Il y a un peu tous les. C'est ça qu'il y a tous les trucs.
Triple game, ton truc. Hein.
Cette fois, tu ne t'attaches pas à un cheval, tu t'attaches à une moto. Je trouve que ça marche un petit peu moins, même si c'est cool de faire de la moto.
Alors c'est vrai, par contre, je trouve que ça marche bien.
Petit nom, Camille, il faut lui donner un petit nom pour t'attacher à la moto.
Ce qui marche plutôt bien, je trouve, c'est cette appréhension du décor avec la moto. C'est-à-dire que tu es en deux roues, tu avances, et puis d'un coup, tu vas t'arrêter, tu vas commencer à marcher, etc. Je trouve qu'il y a un vrai rapport avec ça. Il y a ce côté, justement, gestion des ressources avec l'essence, réparer la moto. T'es tout le temps en train de cafouiller ta moto.
Tu trouves que c'est bien bien foutu avec la moto.
Moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Après, je suis pas motard dans la vie. Mais je trouve que le jeu construit bien ce rapport avec la mécanique, et c'est quand même quelque chose. Alors après, sur le scénario, je trouve qu'effectivement on est sur de la série B, sur du téléfilm, tout ce qu'on veut, mais ça marche. Je trouve qu'il y a ces personnages qui sont là. Lui, bon, il veut retrouver sa copine, au début non, il pense qu'elle est morte, et il crée tout ce... Il y a ce rapport aussi avec ce personnage qui parle par radio interposée, qui est blessé, là, Boozer, qu'on entend beaucoup... Et je trouve qu'il y a quelque chose avec ces personnages. Alors, ça n'invente rien, mais clairement. Mais on a aussi le droit d'avoir des séries B comme ça, bien ficelées, qui font le job et qui sont agréables à jouer. Enfin, moi, je le dis franchement, je m'amuse bien avec ce jeu. Je sais qu'il ne va pas révolutionner le genre, mais encore une fois, dans son exécution, je trouve qu'il marche bien. Et puis, moi, il titille ce côté, comme on l'a souvent notamment dans les jeux Ubisoft, comme je disais, ce côté collectionniste, aller chercher des trucs, aller débloquer des. Et je trouve que. Il joue bien avec ça. Et alors c'est tout bête.
Est-ce que la vie n'est pas un peu trop courte pour collectionner des glands dans l'Oregon, Patrick?
Ah ben ça dépend. Moi je te dis, moi il me vend, ce qu'on disait, moi il me vend l'Oregon, mais clairement. c'est clair. Non, mais il faut pas oublier, c'est une nouvelle IP, c'est un nouvel univers, c'est toujours important.
Arrête avec le mot nouveau.
Non, mais c'est important aussi d'avoir des jeux qui proposent des choses. Alors, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de complètement révolutionnaire, mais il essaie de proposer des personnages. Bon, moi, j'ai eu du mal avec l'acteur principal parce que, en fait, c'était l'acteur qui jouait dans Le Pouvoir de la Force les Star Wars. Et j'arrêtais pas de le voir à l'écran, en fait. Alors, il a beau se mettre une postiche et machin, mais c'est lui. Enfin, je voyais que lui à l'écran. Ça, c'est un truc qui m'a un peu, mais bon, ouais, c'est un détail.
Moi, j'en ai un peu marre de cette figure de anti-héros, un peu, mon Dieu, empathique, mais violent, mais parce que traumatisé. Mais on le voit tout le temps, finalement, ce n'est plus un anti-héros, c'est le héros qu'on nous sert à chaque fois. Quoi.
Je suis d'accord avec toi, mais. Mal
blanc, bon, la quarantaine, un peu mal rasé.
À chaque fin de phrase, t'entends son of a bitch. C'est bon, les gars, tranquille, quoi.
Oui, mais il y a aussi, on a le droit d'avoir des jeux comme ça. Bah comme
oui,
au cinéma, tu peux avoir des vraies séries B qui s'assument et qui n'essaient pas non plus.
Oui, mais il y en a déjà trop.
Et je trouve
Est-ce qu'on n'attend pas autre chose d'une exclue Sony?
Ça, c'est la question.
C'est une très bonne question. La question, c'est par exemple, toi, tu as pris ton temps pour arriver à la fin de God of War.
Oui.
Est-ce que tu vas prendre le même temps?
Et que j'ai repris presque 8 mois après l'avoir laissé, parce que j'avais envie de savoir comment ça allait se terminer. Mmh. Là, j'ai pas envie de savoir comment ça va se terminer. Je le sais déjà. Il va la retrouver, ça, Sarah.
Ouais,
on
le
sait.
Mais t'as envie de
confirmer. Oui, mais ça, c'est
mais on le sait. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Et quand je lance ma console, je me dis, mais qu'est-ce qui me pousse à encore y jouer? Et j'arrive pas à trouver de réponse.
Venir ici.
Alors moi j'adore looter effectivement. Il t'incite à ça pour acheter des armes, pour ceci, pour faire plaisir au camp et monter de niveau dans la confiance et tout ça, blabla. Mais à côté de ça, il y a aucun enjeu scénaristique. Mm-hmm. Et puis voilà, cramer les nids de mutants. Oui. Ça va, quoi. Au bout du 15e, tu fais j'ai compris.
Ça, c'est une petite création. Ça, c'est mutants qui se renferment dans des endroits avec des branches, tout ça, pour hiberner. Bon, voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose
dans les arbres.
Ouais, on est d'accord. Non, moi, ce qui m'a frustré, par contre, un truc. La PS4, elle est quand même, on sait, en fin de cycle. Et là, c'est un des premiers jeux qui utilise la DualShock dans tous les sens.
Oui.
Entre
le pavé tactile.
Oui, les menus. C'est vrai que les menus, c'était une chouette idée.
Je veux dire, maman, s'ils se réveillent, les mecs, ils savent maintenant qu'ils ont quand même une console, une manette. On en parlait avec Corentin la semaine dernière. C'est vrai qu'ils ont une manette qui est quand même assez sophistiquée. Et là, il y a un jeu en 2019 qui commence à dire, ah bah tiens, on peut faire des choses avec le tactile.
Ouais. Et d'ailleurs, moi, je n'arrive pas à m'en servir parce qu'on n'a tellement pas l'habitude. Que je clique forcément toujours dessus. Oui, je suis conne. Il suffit de swiper. Bah oui.
Au début, pareil, j'avais du mal à comprendre qu'il fallait sur la gauche, la droite, j'étais un peu perdu, mais au final, ça marche.
En fait, moi, j'ai eu très peur au début, c'est que le début du jeu te balance en moto tout de suite.
Oui.
Et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, en fait, parce que dès la première prise en main de gameplay, après les cinématiques, c'est la moto. La moto, elle est pas forcément, c'est pas une vraie simulation de moto, elle est assez particulière, et je trouve que c'était pas forcément une bonne idée de commencer par ça.
Finalement, elle est assez facile à gérer, quoi.
Au bout d'un certain temps, tu fais. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, je trouve, de balancer le joueur tout de suite. Le premier contact est un peu bizarre.
C'est un jeu de breaker.
Et puis, effectivement, quand on connaît la genèse compliquée du titre, hein, ils sont, je crois, une centaine de personnes, c'est beaucoup et en même temps c'est peu pour un open world. On sait qu'il avait quand même une réputation un peu de jeu pas forcément. Il a eu des gros patchs au lancement, on sent que il a eu un développement compliqué. Donc c'est vrai que quand je l'ai lancé, j'avais un petit peu peur. Franchement, c'est vrai que ce début un peu bizarre.
Il est bien bugué quand même.
Il y a des bugs, clairement. On passe à travers des murs, mais bon.
Dernier.
Non, mais je te laisse la parole, Camille, parce que j'aimerais bien. Parce que je sens que tu as une sorte de. Tu es un peu fâché aussi contre ce jeu, en fait. Il y a quelque chose.
Allez, dis-nous. Vas-y.
Disons que c'est un jeu que j'ai l'impression d'avoir déjà vu, et puis c'est très, comme tu le disais tout à l'heure, viriliste, en fait. C'est très. Enfin, je sais pas, ça m'agace vraiment, quoi. Et puis j'ai un dernier petit coup de gueule, c'est que les sous-titres, ils sont trop petits.
Et ça, c'est un
ils
problème,
sont beaucoup trop petits.
Mais jouer en VF.
Déjà pour moi,
jouer en VF, elle est très bien la VF en plus.
Franchement, on a entendu le trailer là. Excuse-moi.
Déjà le personnage principal est très bien doublé. Enfin moi, j'ai pas. Non.
Tant mieux. Écoute, je suis contente pour toi. Mais voilà.
Les VF sont importantes.
Alors moi, j'ai peut-être des petites circonstances atténuantes. J'en trouve pas beaucoup à Days Gone, mais en fait, il y a aussi que j'aime bien juger un jeu sur son ambition, sur ce que proposent explicitement les développeurs quand ils te vendent le jeu. Et là-dessus, je trouve que il a au moins un mérite, c'est d'être honnête. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'il nous vend, on est certes pas surpris,
non,
mais on se sent pas forcément lésé non plus.
Oui,
c'est-à-dire
j'ai
une bonne surprise quand même, une vraie bonne surprise, c'est la Horde. Parce qu'au moment de la vidéo de l'E3 2016, je dois avouer, que je n'y croyais pas.
Ah ouais,
c'est-à-dire que, non, mais je me disais, il y a un loup quelque part, parce que ce côté, avec ce nombre de zombies qui te couraient après dans cette séquence un peu non-stop dans ce décor d'entrepôt, là, tout ça, avec tous les zombies qui arrivent à droite, à gauche, je me disais, ouais, non, mais là, ils nous vendent un truc, il va y avoir, ils vont changer de direction d'ici la sortie et tout ça. Mmh. Et ça, c'est encore là. C'est-à-dire que cette horde, quand on la croise...
Et c'est plutôt bien fait. Hein.
Elle est bien faite, ça fonctionne. C'est-à-dire que technologiquement, il y a quand même sur PS4 mini, entre guillemets, la PS4 d'origine, il y a cette horde, il y a et il y a une vraie tension à ce niveau-là.
Oui, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Une fois que t'as fait une erreur, c'est foutu, quoi.
Et pour le coup...
Tu prends ta moto, quoi.
Salut.
tu ressautes sur la moto.
Et pour le coup, la fuite est une option.
t'es pas obligé d'affronter, tu peux fuir.
Il y a cette ambition assumée qu'on retrouve une fois dans le jeu. Je suis à peu près d'accord avec tout ce que tu as dit, Camille. Et moi, le fait est que, oui, d'accord, on a un héros, il est trauma par sa vie, sa life, et qu'il a un passé violent, et donc ça excuse le fait qu'il bute tout ce qui passe. Mais la première fois où il tire, c'est sur un mec désarmé terre. Et moi, j'ai trouvé ça ultra violent.
Il y a une banalisation de la violence dans ce jeu, je trouve.
Et on bute des enfants zombies. Alors, peut-être.
C'est validé
au niveau scénaristique, voilà,
c'est,
okay,
chelou,
c'est justifié.
C'est chelou.
Moi, je trouve ça chelou, je trouve ça pas forcément nécessaire. Après, on peut en discuter, hein, c'est la liberté créative. Mais moi, je sais que j'ai trouvé ça pas nécessaire de faire ça. C'est pas indispensable. Il y a plein d'autres choses dans le jeu.
N'empêche qu'il ne crée rien, ça, on est tout à fait d'accord. Moi, je trouve qu'il arrive quand même à proposer quelque chose vraiment situé entre un Far Cry 5 et un côté dingo d'un Dead Rising. Et je trouve qu'il arrive à trouver quelque chose entre les deux. Et ça, c'était pas évident.
Ouais, Dead Rising, il était surtout sauvé par son second degré absolu.
Ah bah oui, bien
à
sûr.
À la second degré, il n'y en
et
a pas
et ce côté
masses.
Complètement barré. Et là, on est entre les deux.
Days Gone, exclu PS4, à un prix de blockbuster. Hein, je crois, enfin, bon, je ne connais pas le prix des blockbusters, mais ça change.
70 balles.
Voilà, 70 balles. Hein. On va terminer vite avec deux jeux et le premier des deux. Enfin, en fait, il y en a deux.
Ouais.
Il y en a deux sur ça. C'est FF10, FF10-2 qui sortent sur Switch.
This is it. Die and be free of pain. Or live and fight your sorrow.
L'information principale de cette sortie, c'est que ce sont des jeux qui ont 18 ans.
17-18 ans, ouais, c'est ça, quelque chose comme ça.
Ils vont pouvoir passer leur permis.
ça serait bien de repasser en fait le code.
Ouais, c'est ça. Camille.
Ouais, alors il y a environ 17 ans, je découvrais FF10 sur PS2 et comme j'étais fan des précédents volets, ça a été plutôt une belle découverte sur bien des points, comme la profondeur de certains personnages, j'insiste sur certains personnages, la richesse de l'univers, des réflexions sur la vie, la mort, une rébellion contre un ordre préétabli et le refus de croire les yeux fermés à des préceptes et des dictats. Ouais, mais sur la Camille adolescente, ça marchait vraiment plutôt bien. mais déjà à l'époque, il y avait l'odeur d'une rupture avec les épisodes précédents et là... Tout ce qui m'agaçait un petit peu il y a 17 ans, maintenant ça m'horripile complètement. Sur ce portage HD sur Switch, qu'est-ce que je retiens ? C'est Tidus et son rire insupportable. Sa voix en anglais en plus, ça passe pas. Sur un FF, ça passe pas. C'est très cliché. Les animations sont d'une lenteur, mais exécrable. Ça manque de souplesse et t'as un départ lent au début et t'as du nu. Des plans sur des formes et des courbes de filles comme ça, sans explication. C'est genre, ah ouais, un string qui dépasse, regardez.
Ah, c'était l'époque, hein. L'époque. Ouh là
ouais,
là, non, FF10-2.
Le 10-2, je l'ai lancé vite fait, mais celui-ci, je le détestais, donc ouais. Je vais voir, mais je sais pas si
le
je vais voir.
Le chara-design à l'époque, c'était affaire. Oui, voilà. C'était ça, c'était celui-là.
En fait, ça sert jamais le propos, donc c'est vraiment juste non. C'est too much et c'est lent. Alors ce portage me fâche avec un jeu que j'aimais, Hein, c'est triste. J'espère que le portage
c'est le
de.
Portage. C'est pas le portage en fait qui te fâche, c'est le jeu en lui-même.
Oui, maintenant
le portage,
c'est... Oui, voilà.
Il n'y a pas eu de retouche finalement du.
Mais il fallait le laisser. Non, il fallait le laisser.
Il fallait le laisser dans le placard.
Portage du coup.
Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, bah, j'espère que le portage de FF12 va me réconcilier avec un jeu que je n'aimais pas, que ça switch en fait, que ça fasse la différence.
Alors là, il y en a un sur la cartouche et l'autre à télécharger. Donc ça, c'est à savoir. Je crois si on le prend d'occasion, il faut faire attention à ça. Je crois que le 10 est sur la cartouche en version physique. Et le 10.2 est à télécharger. Voilà, c'est à savoir.
Ok.
Voilà.
Et surtout, faire attention, les portages sont aléatoires sur les FF, on va dire. Je crois que quelqu'un avait fait une liste de tous les FF et à chaque fois, il y a un gros problème. Enfin, vraiment, Square Enix arrive à rater chacun de ses portages. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a une manière créative à chaque fois pour la manière dont ils le ratent. Et alors, parfois, c'est les polices sont moches, des fois, c'est des mauvaises sprites utilisées, des fois, c'est des réorchestrations.
Les mauvaises traductions aussi.
C'est basé sur le remaster PS4. Oui, Vita.
Oui,
j'ai pas suivi, mais je crois que ça date. C'est la Kakadja.
Et bien, tu reviendras nous parler de FF12.
Oui, j'espère que je serai beaucoup plus contente.
Switch. Et on finit sur la sortie en version bêta, parce que c'est version alpha. Non, en early access. Voilà.
Early access.
Il est passé par des versions alpha, des versions bêta. C'est Totally Accurate Battleground. Ah. J'avais une chance sur deux, c'est Battle Simulator.
Absolument.
Parce que son petit nom, c'est Tabs. Tabs, Totally Accurate Battle Simulator.
Parce que Totally Accurate Battlegrounds existe. C'est un vrai jeu qui est par le même studio, qui était un 1er avril, qui s'est transformé en vrai jeu. Et c'est donc un PUBG, mais avec le moteur de Totally Accurate Battle Simulator. C'est donc très drôle. Oui, donc Totally Accurate Battle Simulator, ça fait longtemps qu'il est dans les placards. C'est le projet, c'est le magnum opus un petit peu de Landfall, alors qu'il n'est jamais sorti. Je crois que c'est pour ça qu'ils sont peut-être le plus connus, alors que le jeu n'est pas sorti, tu vois. Donc c'est pour dire à quel point les gens l'attendent. Landfall, c'est qui? C'est des Suédois. Ils ont sorti pas mal de jeux, et notamment, moi, mon préféré de leur part, c'est Cluster Truck, où il fallait sauter sur des camions.
Ah, c'est eux!
Ouais, c'est eux. Ah. Il fallait sauter sur des camions lancés,
Mais rendu fou, ce jeu.
Ah, il est trop bien. Et il fallait passer à la ligne d'arrivée sans toucher le sol. C'est très, très rigolo. Et donc, Landfall, ils sont connus surtout pourquoi? Ben, pour leur moteur physique. Parce que leur moteur physique, il est particulier. Parce qu'en fait, je crois que les os et tout ce qui est un peu solide n'existe pas vraiment dans le monde. Dans le... Tout est un peu mou, tout est un petit peu élastique. Donc là, c'est ça. Donc avec des bonhommes qui sont ressemblent un petit peu là, à ton jeu de jouet de la dernière fois, tout rouge. Ils sont grands, ils sont tout mous et ils ont des googly eyes. Donc vous savez, les yeux hein, qui bougent un peu dans tous les sens en fonction du mouvement que tu fais. Sauf que là, ils sont là pour se mettre sur la gueule violemment dans des grands champs de bataille, sachant que eh bien, on a un peu tout. Nos unités sont rangées dans des petits tiroirs en fonction de la période ou de l'univers. Donc on peut avoir donc on commence avec des hommes préhistoriques, donc on aura des mecs avec des comment on appelle ça, des massues, et d'autres qui jettent des cailloux hein, directement, c'est plus rapide. Après on aura je sais pas, les fermiers qui vont se battre avec des fourches, et il y en a un même, c'est un espèce de comment on appelle ça,
un épouvantail
qui lance des corbeaux. Attaque. Après, on aura voilà des chevaliers, des gens de la Grèce antique, des Romains, des Vikings, et on peut avoir des unités vraiment rigolotes. Enfin, par exemple, moi, je pense aux Vikings où on peut carrément appeler
le Drakkar.
Sauf que le Drakkar, il est porté par 3 personnes sur le champ de bataille. Et donc, quand le Drakkar il tombe, il coûte super cher, il sert à rien le Drakkar. Et quand le Drakkar il tombe, bah, les mecs ils se battent avec leurs pagaies, enfin c'est n'importe quoi. Mais c'est très rigolo, voilà, on peut amener Zeus et tout. Alors, jusqu'à présent, ce jeu-là, il était, donc tu l'avais dit, en alpha, donc on pouvait grosso modo dire ah, qu'est-ce qui se passe si des chevaliers se battaient contre Zeus. Alors, on se demandait qu'est-ce qui se passait. Là, on est toujours un petit peu là, on est un peu sur cet aspect-là, mais avec un petit peu plus de jeu autour.
Ouais.
Donc, on a ce champ de bataille, on commence, et on nous propose différents niveaux où l'armée en face est déjà faite. Il y a une armée qu'il faut affronter, donc voilà. Et toi, on te donne un budget, donc sachant que chaque unité te coûte de l'argent. Et le but, bah, c'est de placer tes unités dans les unités que tu peux acheter, dans le budget, comment réussir à gagner.
Et après, tu lances et tu n'as plus t'as plus la main.
Et après, tu lances et tu regardes ce qui se passe, sachant que la caméra est très libre,
ouais.
Que le but, c'est aussi pouvoir te marrer, aller regarder, ouais. Se mettre sur la gueule, sachant qu'ils sont vraiment... Mais sont pas doués quoi. Enfin, ils sont ils sont là, imaginez-moi avec mes bras là, je vous mets des coups et tout, et au final ils finissent par se tuer, tu vois. Au bout d'un moment ils y arrivent, mais ils sont vraiment pas doués ces soldats. Et donc c'est surtout rigolo à regarder, avec un petit aspect stratégique quand même. Enfin, il y a des niveaux qui sont pas si faciles quand même à réussir dans le budget donné. Enfin, moi il y a des moments je fais attends, si je mets mes balistes là, si je mets machin, je vais pouvoir y arriver. Il y a quand même un peu de réflexion.
Moi finalement c'est généralement je galère et puis arrive le moment où bon bah je vais mettre un mammouth.
Les mammouths, ça marche pas toujours.
Ouais, mais ça marche.
Ça marche souvent.
C'est efficace, un mammouth. C'est efficace.
Ouais,
mais... Allez, les mecs en face,
on
croirait pas, mais le mammouth est un bon investissement.
Ouais, moi, j'ai un petit faible pour Zeus. Zeus, il est bien quand même. Zeus, il lance un éclair.
Ouais, t'as, 4,
t'as 10 mecs électrocutés et c'est quand même pratique. Ouais. Donc voilà. Après, il y a un sandbox, évidemment, où on peut vraiment faire affronter qui on veut quand on veut. Et puis passer ça, on se dit voilà, on va peut-être passer à autre chose maintenant. Donc c'est le problème pour l'instant de Totally Accurate Battle Simulator, c'est que c'est sympa, une heure, puis après on se dit bon, on va jouer un vrai jeu quoi. Parce que pour l'instant le jeu il est en early access, il manque de modes, il n'est pas encore, on sent pas l'input particulier qu'on peut donner, ça manque de stratégie par exemple. Alors il y a une roadmap qui est prévue. Il y a d'autres factions qui arrivent. Il y a les pirates qui arrivent. Il y a
les ninjas.
Les ninjas sont déjà là.
Ah bon ?
Les ninjas sont déjà là. Ça s'appelle Dynasty. C'est un mélange entre ce qu'on peut trouver en Chine et au Japon. Il y a les pirates. Il y a les gens de la Renaissance qui arrivent aussi. Il y a aussi d'autres choses, comme par exemple le fait de pouvoir contrôler une unité qui va arriver. Donc ça, c'est cool. Pouvoir créer ses unités aussi. Ça va être intéressant. Moi, j'aimerais bien un éditeur vidéo. Ça pourrait être cool aussi pour faire ses vidéos rigolotes et tout. Maintenant, aujourd'hui, je suis pas sûr de recommander Totally Accurate Battle Simulator au-delà de la petite rigolade pendant une heure que vous allez avoir. À moins que vous soyez un YouTuber ou un Twitcher, tu l'as dit, on en a discuté.
C'est le jeu parfait pour une vidéo de 20 minutes sur YouTube.
Exactement. C'est vrai que c'est rigolo. C'est rigolo de voir au ralenti le mec se prendre un énorme caillou dans la tronche et partir.
C'est là-dessus où Tabs a cartonné sur YouTube en alpha, en bêta. Voilà. Il y a eu énormément de vidéos. Je crois que Squeezie en avait fait. Voilà. Je crois que tous les YouTubers avaient fait leur vidéo de Tabs. Et c'est un format exceptionnel pour ça. Après, c'est comme tous les jeux qui finissent en simulator, comme God Simulator, comme les chirurgiens, les machins simulator. Enfin,
Donc,
la tranche de mie de pain était rigolote aussi.
Donc, si vous êtes un YouTube, donc c'est bien fait, c'est intéressant. Il y a le moteur Landfall qui est là. Il y a un jeu maintenant, il y a un vrai jeu. Ça pisse pas encore très très loin, mais on attend la suite. Donc, voilà, si vous êtes YouTubeur ou Twitcher, allez-y. Pour les autres, je vous recommande un peu d'attendre encore parce que ça manque de fonctionnalités encore.
Regardez des YouTube ou des Twitch.
Ouais, regardez des Twitch et des YouTube, voyez si ça vous plaît. Attendez que les fonctionnalités arrivent, je recommande. Après, les mecs de Landfall, ils sont de bon esprit, je m'attends à un bon jeu au final. Mais comme tous les Early Access, il faut être prudent et le principe même de Early Access parfois est dangereux, donc attendez un petit peu.
C'est fini pour cette semaine pour les jeux vidéo. Et rapidement, mais la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi ? Elodie, tu m'as dit, je vis pour... J'ai plein de trop de choses à dire.
Beaucoup trop, mais on va faire vite. Et là, je voulais juste vous recommander un manga qui s'appelle Bip Bip Boy et qui va parler à tous les gamers parce que c'est une autobiographie. L'auteur s'appelle Rensuke Oshikiri et il nous raconte son enfance dans les années 80, complètement partagée entre les consoles qui sortaient à l'époque et les salles d'arcade et la difficulté de grandir en étant un geek et un cancre à la fois. Donc il raconte son premier contact avec la NES, puis la Game Boy, la Saturn, Donkey Kong, Kung Fu Master. Donc ça va parler à plein de gens et je vous le recommande très fortement. C'est chez Omake Manga, une nouvelle maison d'édition. C'est la nouvelle division manga. Ils n'éditaient pas de manga jusqu'à présent. Omake existe. Mais maintenant, il y a un label qui s'appelle Omake Manga et c'est leur premier manga. Voilà.
Parce que c'était Omake Book.
Exactement.
Ouais. Camille ?
Eh oui, quand je ne joue pas, je découvre un média sur le web qui, en fait, a fêté ses 5 ans d'existence. Donc, je suis un peu à la ramasse, mais bon, je ne pense pas être la seule. Et il s'agit de Manifesto 21. Je ne sais pas si vous connaissez. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce média web ? Il s'attaque à la crise de l'industrie, les questions sociétales, mais en refusant cette pensée unique et la pensée du coup qui écrase celle des dominants pour laisser place à celle des laissés pour compte justement, donc les femmes, les personnes racisées, les LGBTQI, les non-valides, etc. Donc c'est de longs formats, des réflexions pertinentes qui interrogent vraiment le fond d'un problème et en plus les plumes sont plutôt savoureuses. Donc je conseille d'aller jeter un œil pour toutes celles et ceux qui cherchent une pensée ou plutôt des pensées plurielles et exigeantes et qui n'ont pas peur de se plonger dans un article long car oui ça existe encore et en plus c'est gratuit.
C'est gratuit, c'est pas sur abonnement.
Ouais.
Oh. Bien. Enfin, pas bien, hein. C'est bien aussi d'être sur abonnement. Hein.
Oui,
là,
bien
attention,
sûr,
hein.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus accessible, c'est accessible à plus de monde. Voilà,
oui,
c'est
voilà,
ça.
C'est ça. Patrick.
Alors, moi, je le regarde tous les ans. Tous les ans, je me fais une projection de ce DVD. Non. C'est un de mes documentaires musicaux, voire peut-être mon documentaire musical favori. Et là, cette année, je vais le regarder de façon un peu différente parce qu'il est sorti il y a 30 ans, pile, presque jour pour jour en salle. C'est Depeche Mode 101, 101.
Ah,
c'est,
oui.
c'est, alors, voilà, oui. Moi, c'est vraiment un de mes... alors, oui. Pour resituer, c'était la tournée mondiale de Depeche Mode en 87-88. Et c'est un vrai document, en fait, puisque le film suit le groupe lors des dernières dates qui se terminent sur le mythique concert du Rose Bowl à Pasadena, qui est devenu culte, qui est sorti en disque, d'ailleurs, depuis. Et puis, donc, à la fois, on suit pendant, je crois, 2 heures, donc, le groupe Depeche Mode, et on suit en même temps des jeunes, des fans qui sont dans une caravane, qui les suivent, qui ont gagné un concours comme ça pour participer au dernier temps de la tournée. Donc c'est un vrai documentaire sur l'époque. C'est-à-dire qu'on voit l'Amérique de 88 et puis ce groupe anglais qui est propulsé comme ça par un succès mondial parce que Depeche Mode, là, à ce moment-là, rentre vraiment dans une... C'est un tournant pour ce petit groupe anglais de l'électronique qui explose littéralement. Il y a des moments cultes hein, pour l'histoire de Depeche Mode. Quand on va en concert aujourd'hui, lorsqu'il y a Never Let Me Down Again, on a ce mouvement de foule toujours avec les bras. Ça vient du concert de Pasadena qui est vraiment cultissime. Et puis, il y a ces moments à la fois très forts dans des énormes concerts. Et puis, il y a des moments plus intimes où on voit le groupe qui se pose des questions. Bah, après un succès pareil, qu'est-ce qu'on va faire? On est arrivé aux États-Unis, on a fait un carton. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait après ça? Bah, la réponse, elle suit un an après avec un des plus grands albums jamais composés, Violator, qui est un vrai monument. Donc voilà, la suite pour Depeche Mode était vraiment top. Mais vraiment, ce document, moi, je le regarde tous les ans, je me fais une projo. 101, c'est vraiment un super document sur la musique de Depeche Mode et sur l'époque.
Voilà. Merci. Corentin ?
Alors moi, je me fiche ouvertement de la gueule des gens qui sont là devant les Marvel, Infinity War, les Avengers. J'en ai rien à faire, mais rien à faire. Et puis, je me retrouve comme un gamin à regarder Game of Thrones et à être dans la hype totale de Game of Thrones. Donc, je vais parler de Game of Thrones. Je vais pas spoiler Game of Thrones parce que je suis une personne respectable. Mais quand même, le dernier épisode de Game of Thrones était assez mémorable pour différentes raisons que je n'évoquerai pas. Il a fait parler de lui, cet épisode.
C'est quel le dernier pour toi, du coup, parce que ceux qui...
Ça, pardon, le 0-3. Excuse-moi.
Le troisième, la grande bataille qui était attendue. La première grande bataille de
tout,
cette saison. Les gens qui suivent comprendront. Beaucoup de gens ont dit qu'il n'y avait pas assez de lumière. Et ben moi, je n'ai pas trouvé. Voilà, je trouvais que le choix, justement, de ce début d'épisode dans le noir était une bonne idée, notamment pour rajouter de l'inquiétude.
Il fait nuit, en fait. Donc,
il fait nuit, voilà. Et puis c'est des zombies, quoi. Bref, donc c'est une bonne chose. Quant à la. Non, mais même la bagarre était bonne. C'était sympa.
La bagarre
était bonne. Écoutez, les twists étaient sympathiques. De quoi?
Non, rien.
Ah oui, je sais ce que tu penses. Non, mais voilà, j'ai un peu peur du coup d'une fin de saison un peu décevante vu.
Enfin, je sais pas recadrer, que... Il faut le recadrer.
J'ai peur qu'on ait atteint un sommet d'action là et de péripéties. On verra ce qui se passera dans les 3 derniers épisodes de cette saison 8 qui est là pour conclure. Il reste des choses à régler. Hein. Mais j'ai un peu peur quand même, voilà. Mais voilà, moi j'ai bien aimé cet épisode là. Oui, c'est vrai que les stratégies militaires étaient nazes. On est d'accord, Erwan, elles étaient ridicules. Elles étaient ridicules ces stratégies militaires.
Il ne faut pas.
Mais moi j'ai bien aimé.
Et puis moi juste sans aller plus loin, mais c'est un truc qui reste dans ta liste Netflix. Vous connaissez la liste Netflix?
Oh, oui,
c'est les choses on met et puis on regarde jamais ce qu'il y a dedans parce qu'on a l'impression d'avoir vu la moitié en mettant sur la liste. T'as l'impression d'avoir fait la moitié.
J'appelle ça ma bibliothèque Steam,
ouais,
perso.
Pareil. Il y en avait un, c'était Enquête Codée, que c'est assez marrant. C'est des mini-séries de 2 saisons de 3 épisodes à chaque fois. C'est sur des nanas qui bossaient en Angleterre dans le service de Turing, donc de décodage héritage des trucs allemands. Et après la guerre, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Eh ben, elles deviennent des femmes au foyer, des choses. Et en fait, c'est sur cette période d'après-guerre. Alors, c'est un côté un peu Agatha Christie dans les enquêtes policières, un peu très très classique et tout ça. Mais c'est super sympa.
C'est un documentaire aussi.
Non, c'est une série. C'est une fiction.
En
2x3 épisodes. Et c'est des enquêtes policières, deux enquêtes policières pour le coup. Et c'est très bien fait.
Dans le civil, en fait, elle continue.
Oui, mais avec aussi une réflexion sur la place de la femme à cette époque-là, sur qu'est-ce que ça fait de passer d'héroïne, entre guillemets, de la guerre, parce qu'elle décodait des messages allemands, à un retour au civil où elles sont femmes au foyer ou exploitées ou ce genre de choses. Il y a pas mal de choses très sympas et ça se regarde vraiment très, très bien.
Ça va direct dans ma liste.
Voilà, mais regarde-le, c'est deux choses différentes.
Oui,
merci à tous, on se retrouve donc pas la semaine prochaine. À la Réal, c'était Quentin Bresson, merci Quentin. Et donc on se retrouve dans deux semaines pour parler de jeux vidéo sur binge.audio, sur libération.fr et sur les internets. Ciao.